Bien, prenons nos Bibles de nouveau et regardons ensemble dans Ésaïe chapitre 2. Et je voudrais reprendre à partir du verset 5 que nous avons déjà vu la dernière fois, mais que l'audio n'a pas marché, de pouvoir enregistrer le message et beaucoup m'ont demandé de revisiter ce passage pour que nous puissions cette fois-ci avoir l'enregistrement. Donc, je reprends, mais au lieu de m'arrêter au verset 9 comme j'avais fait la dernière fois, nous allons jusqu'au verset 22 de ce passage. Je sais que c'est long, mais le tout fait un ensemble. Et le titre, encore, c'est « Marcher à la lumière du Seigneur ». Comme nous lisons ici dans le verset 5, « Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. » Ici, nous avons un commandement, pas une invitation. L'Évangile n'est pas une invitation, c'est un commandement que nous adressons aux pécheurs. Et qu'il n'y a qu'un seul message, d'abord de venir, c'est Dieu qui lance cet appel aux pécheurs et marcher à la lumière de l'Éternel. Si quelqu'un veut se demander, mais qu'est-ce que la lumière de l'Éternel? La lumière de l'Éternel a été depuis l'éternité et est à toujours le Seigneur Jésus. Voilà le titre qui est donné au Seigneur Jésus-Christ. Il y en a qui suppose que dans l'Ancien Testament, il s'agit de Dieu, et puis dans le Nouveau, il s'agit de Christ. Mais Christ est Dieu. Donc, partout dans l'Ancien Testament, où nous voyons ces termes, nous voyons dans le Nouveau Testament que tout cela s'applique au Seigneur Jésus. Donc, l'appel ici de marcher à la lumière, c'est de marcher en Christ. Oui, les prophètes de l'Ancien Testament avaient l'Esprit du Christ en eux. Et donc, lorsqu'ils annonçaient l'appel aux pécheurs à l'époque, c'est toujours le même message depuis le début de la création jusqu'à la fin du monde. C'est Dieu le Père qui a ordonné à ce que tout l'honneur et la gloire revient à son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, venir à la lumière, d'abord il faut venir à Christ. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu d'attirer à Jésus-Christ ceux qu'il a donné à son Fils depuis l'éternité. Pour qui Christ est venu dans le monde? Quand Christ est venu dans Jean chapitre 1 et il a annoncé qu'il était la lumière du monde. Voilà la lumière qui était prédite dans l'Ancien Testament, que lorsque le temps fut accompli, Christ est venu. Mais ceux de l'Ancien Testament n'étaient pas sauvés d'une autre manière que le Nouveau Testament. C'était par l'Esprit du Christ, révélant Christ en eux, qu'ils sont venus à Christ et qu'ils marchaient à la lumière de l'Éternel, c'est-à-dire Christ. Donc, ceux qui marchent dans la lumière sont les personnes qui sont éclairées par l'Esprit de Christ et en qui Christ s'est révélé, même avant qu'il ne soit venu dans le monde en chair, mais son Esprit était en eux pour qu'il cherche le salut en Christ et Christ seul. Toutes les images que nous voyons dans l'Ancien Testament, dans les sacrifices, dans les sacrificateurs et le tabernacle, l'autel, tout cela sont des symboles du Seigneur Jésus-Christ qui devait, au moment ordonné par Dieu, venir dans le monde et se révéler comme l'accomplissement de ces choses. Alors, voilà le verset 5. Maintenant, dans le verset 6, « Tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob. » parce qu'ils sont pleins de l'Orient et adonnés à la magie comme les Philistins. Donc nous voyons ici ce qui empêche les pécheurs de marcher à la lumière du Seigneur si Dieu lui-même n'intervient pas. Parce qu'il y en a que Dieu, en laissant le peuple à son sens réprouvé, ne cherchera jamais à venir à Christ. Ce qui est dans la nature de l'homme et le cœur de l'homme n'est que de l'idolâtrie. Quand c'est écrit parce qu'ils sont pleins de l'Orient, ça parle là de la fausse doctrine du jour qui venait de l'Orient. Et les gens étaient, comme c'est écrit, adonnés à la magie comme les Philistins. Lorsque Dieu avait placé le peuple d'Israël dans le pays promis, il avait fait cela avec cet avertissement de ne pas imiter ceux qui les entouraient, surtout dans leur manière d'adorer Dieu. Mais avec le temps, ils ont commencé à s'assimiler avec le peuple, à s'intermarier et puis adopter même leurs faux dieux, les dieux des étrangers qui ont capté leur attention et ils ont préféré suivre ces voies orientales dans la fausseté de leur cœur que de tourner vers Dieu et continuer à tourner vers Dieu. Donc, verset 5 est un appel à la repentance. La repentance, c'est d'avoir un cœur tourné vers Dieu et la foi en Jésus-Christ. C'est comme ça que Paul lui-même, dans Actes chapitre 20, si vous voulez regarder là avec moi, Actes chapitre 20, il a décrit ce que c'est la repentance. Il dit dans le verset 21, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu. Oui, c'est ça, la repentance, c'est envers Dieu. C'est de tourner dos à tout faux Dieu et se tourner vers Dieu. Et vous voyez le mot « et » signifie « même la foi en notre Seigneur Jésus-Christ ». On ne peut pas dire qu'on s'est repenti si ce n'est accompagné de cette foi qui est la révélation de Christ. Et les deux sont synonymes. Mais voilà ce qui empêche les gens, même de nos jours, de marcher à la lumière du Seigneur. On peut bien prêcher Christ comme le Sauveur et celui à qui les pécheurs doivent venir et en qui ils doivent marcher. Mais si Dieu lui-même ne leur donne pas cette foi, alors ils vont continuer à poursuivre l'idolâtrie de leur cœur. Pourquoi les gens suivent l'idolâtrie du monde? C'est parce que l'idolâtrie est déjà dans le cœur. Et comme la dernière partie du verset 6 le dit, « Et parce qu'ils s'allaient aux fils des étrangers. » Voilà ce que la nature pécheresse fera chaque fois, comme ça a été dans la chute d'Adam. Au lieu de rester fixé sur l'arbre de vie qui était dans le jardin, ils ont trouvé que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était préférable. Et en maintenant mangeant de ce fruit, de cet arbre, voici le monde est tombé dans la condamnation à cause d'Adam. Mais Dieu merci, le dernier Adam est venu, le Seigneur Jésus-Christ, et lui, lorsqu'il est venu, il a satisfait entièrement la loi et la justice de Dieu pour le peuple que le Père lui a donné. Adam avait sa race à qui il a donné la condamnation, mais Christ aussi avait sa race, son peuple, qui lui a été donné du Père. Et donc, c'est pour eux qu'il est venu. Mais sans lui, sans la représentation du Seigneur Jésus-Christ comme celui qui est la lumière, donc Ceux qui sont en dehors ne feront que continuer à poursuivre des doctrines étrangères, comme c'est écrit ici, parce qu'ils s'allaient au fils des étrangers. Et puis, deuxièmement, non seulement c'est l'idolâtrie qui domine et qui empêche les pécheurs de marcher à la lumière sans l'intervention de Dieu dans sa grâce, mais aussi les richesses. Comme c'est écrit, le pays est rempli d'argent et d'or et il y a des trésors sans fin. Le pays est rempli de chevaux et il y a des chars sans nombre. Donc voilà encore ce que les gens recherchent. Ils ne veulent pas des richesses qui sont en Christ. Lorsque nous nous levons pour annoncer que c'est Christ et sa mort qui est toute la richesse nécessaire pour les pécheurs pour atteindre le ciel, il y en a qui sont sourds à cause de la dureté de leur cœur et ils préfèrent, comme de nos jours, entendre des prédicateurs prêcher des messages de bonheur et de richesse. Et voilà ce qu'ils poursuivent sans l'œuvre de Christ dans leur cœur. Et voilà ce qui a fasciné le peuple de Juda à qui Ésaïe était en train de prêcher. Dieu les avait séparés et placés dans ce pays. Et à cette époque, pendant plus de 500 ans, jusque-là. Mais pour la plupart, ils ont abandonné le Seigneur. Il y avait un reste, comme nous avons vu dans le premier chapitre, un faible reste, bien sûr, dans le verset 9, Ésaïe 1, 9. Mais s'il y en avait comme Ésaïe et peut-être quelques-uns d'autres, mais la plupart étaient scellés dans leur condamnation. Parce que verset 9, Ésaïe 1 dit, si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome et nous ressemblerions comme Gomorrhe. Alors voilà la situation dans laquelle Ésaïe se trouvait. C'était un pays rempli de diverses philosophies qui venaient de l'Orient. C'était un pays qui était regorgé d'argent et d'or. Et comme je disais déjà, ce n'est pas l'argent qui est mauvais, mais c'est l'amour de l'argent. Voilà ce que Paul a dit à Timothée, 1 Timothée chapitre 6, verset 10. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent, nous avons besoin de l'argent. On ne pouvait pas subsister si on n'avait pas de l'argent de pouvoir à nos besoins. Mais quand les gens font de l'argent l'objet de leur recherche et convoitisent, c'est ça, on ne peut pas servir le mammon et en même temps servir Dieu. Et donc, c'était le fléau qui remplissait le pays, non seulement les diverses philosophies qui venaient de l'Orient et la recherche d'argent, il y en avait beaucoup, mais comme on a déjà vu, troisième lieu, le pays était plein d'idoles. Verset 8, ouais, le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Les petits seront abattus et les grands seront abaissés. Tu ne leur pardonneras point. Il n'y a pas un message pour les gens que Dieu a déjà laissé à leur sens réprouvé et qui poursuivent, comme c'est écrit, on peut bien se demander, mais qu'est-ce qu'une idole? Une idole commence avec le mot idée. C'est l'idée que les gens se font en eux-mêmes et de ce qu'ils veulent maintenant poursuivre. Et ils préfèrent donner plus d'honneur, notons, à l'ouvrage de leurs mains devant ce que leurs doigts ont fabriqué, plutôt que de considérer que, non, le salut vient de la main de l'Éternel. Ce n'est pas mes mains, mais c'est sa main. Et dans la personne de Christ, c'est son œuvre qui a accompli mon salut. Mais des gens ne veulent pas un message qui donne toute la gloire à Dieu. Et nous avons aujourd'hui, dans les différentes dénominations, plein de gens qui poursuivent une religion d'œuvre et d'ouvrage des mains des hommes et non pas l'œuvre de Dieu. Les gens préfèrent se prosterner devant un message qui leur donne la gloire. Et voilà beaucoup de prédicateurs qui sont prêts à faire cela. Quand les gens viennent les écouter, ils préfèrent élever en honneur l'homme et les hommes qui les écoutent et même les encourager de plus en plus à faire de plus grandes œuvres pour Dieu. Pourtant, ce n'est que la condamnation. Donc, nous devons, par la grâce de Dieu, venir à Christ, qui est la lumière, et marcher en lui, et non pas nous prosterner devant les philosophies des hommes, ni être attirés par ce que les hommes veulent amener et ajouter à la parole de Dieu. La parole est simple. La parole de Dieu est claire. Il n'y a de pardon en dehors de Christ et son œuvre qu'il a accomplie pour son peuple. C'est pourquoi le verset 9 le dit bien. Les petits seront abattus et les grands seront abaissés. Qui qu'il soit qui est en dehors de Christ et laissé à eux-mêmes, ils seront abattus et abaissés. Bien sûr, ici, dans le contexte, Isaïe est en train de préparer le peuple pour l'invasion de Nebuchadnezzar, de Babylone, et la destruction du temple et de la ville de Jérusalem à cause de leur idolâtrie. Ils ont abandonné la voie du Seigneur. Et le Seigneur les a également abandonnés. Et si tel est le cas, comme il dit ici, tu ne leur pardonneras point. Il y en a qui raisonnent que non, Dieu est amour, il ne veut pas condamner qui que ce soit, donc il est toujours là, à n'importe quel moment que quelqu'un veut se tourner à Christ, voilà, la porte est ouverte. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Il y en a qui sont déjà scellés dans leur condamnation, dans leur incrédulité. Dieu les a abandonnés. C'est comme ça que c'est écrit dans le verset 6. Tu as abandonné ton peuple, c'est-à-dire ce peuple juif. Et donc, tu ne leur pardonneras point. Ça, c'est vraiment un message sombre, mais néanmoins, ça fait part aussi de l'évangile que nous avons annoncé. Bien sûr, le message d'espoir, c'est pour ceux en qui Dieu a révélé sa grâce en Jésus-Christ. Mais en même temps, nous devons avertir le reste que laissés à eux-mêmes, si Dieu n'intervient dans sa grâce, si Christ n'est pas mort pour eux, il n'y a pas de pardon. Maintenant, je voudrais, dans les suites du verset 10 à 22, voir avec vous les conséquences de ceux qui ne marchent pas dans la lumière. Voilà le lien avec ces versets que nous avons étudiés, du verset 5 au verset 9. Et c'est écrit ici, « Entre dans les rochers et cache-toi dans la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. » Ouais, comment est décrit ici le jugement de Dieu? Et l'homme peut-être pense qu'il a une idée de ce que c'est la colère de Dieu, mais ici, Isaïe est en train de présenter cette réalité comme une situation que lorsque Dieu fait éclater sa justice et sa colère sur un peuple, quelle horreur, le mot utilisé là, c'est le mot terreur. Au début de ce chapitre 2, nous avons vu la gloire du règne de Christ qui devait venir établir dans ce monde. Mais cette deuxième partie ici décrit, comme nous avons vu, non seulement la corruption actuelle de Judas, mais ici les conséquences. Le péché a ses conséquences. Si Christ n'a pas payé la dette pour un pécheur, donc c'est le pécheur lui-même qui doit subir et cette condamnation. Et donc, Isaïe, dans le verset 10, dit que lorsque Dieu fait éclater sa colère, son jugement, et encore dans le verset 10, il est en train de préparer le peuple pour le jugement que Dieu devait faire amener par Nebuchadnezzar et Babylone et la destruction de Jérusalem. Il y a un historien qui se nomme Josephus, qui a écrit toute une histoire d'Israël. Et il a eu à décrire dans cette histoire très détaillée les dégâts de la ville de Jérusalem à cette époque. Nous sommes en train d'envisager, Isaïe envisage ce jugement comme la colère de Dieu qui devait tomber sur le peuple. Cela a été environ 587 ans avant Christ. Et puis, après les 70 ans qu'Israël a passé en Babylone, Dieu les a fait revenir dans le pays. Et même après ça, ils ont continué dans leur fausse voie jusqu'au temps de Christ. Il y avait le deuxième temple qui était reconstruit. Mais au temps de Christ, Christ lui-même a prononcé des jugements sur la ville. Et effectivement, dans l'an 70, Dieu a suscité cette fois-là l'armée romaine qui est venue détruire le temple et la ville. Et jusqu'à aujourd'hui, le temple est en ruine. Dieu l'a ordonné ainsi parce qu'on n'a plus besoin d'un temple fait de main d'homme, parce que Christ lui-même est ce temple. Et tous ceux pour qui il est mort par son esprit, à travers la prédication de l'évangile maintenant, il est en train d'appeler à lui-même, avec le même message que nous avons dans le verset 5, « Venez et marchons à la lumière de l'Éternel. » En dehors de Christ et son œuvre accomplie, donc, la colère de Dieu demeure sur les autres, ceux pour qui Christ n'est pas mort. Mais qui est-ce qu'il adresse ici? C'est écrit verset 11. L'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Encore, dans le contexte historique, ça envisage ici le jugement que Dieu devait rendre par ce pays païen, Nebuchadnezzar et les Babyloniens. Mais aussi, on peut dire, ça décrit en quelque sorte le jugement final aussi, à la fin du monde. Quand Dieu prend des pécheurs qui sont opposés à Christ et pour qui Christ n'est pas venu et qu'il n'est pas mort, il y en a qui disent qu'il est mort pour tous les êtres humains, non. Il est mort pour ce peuple que le Père lui a donné. Et le reste, comme c'est écrit ici, sera abaissé. Et notons verset 11, l'Éternel seul sera élevé. Les gens ne veulent pas donner cette gloire à Dieu seul, mais le jour viendra où l'Éternel seul sera élevé. Soit en faisant grâce au pécheur qu'il a ordonné au salut, ainsi l'homme au regard hautain est abaissé. Nous qui sommes les enfants de Dieu, par sa grâce, nous pouvons témoigner de cela. Il nous a abaissés. Et c'est lui seul qui est élevé dans nos cœurs. Mais on doit dire aussi dans le jugement, que ce soit dans le salut ou dans le jugement, c'est l'homme qui est abaissé, l'orgueilleux est humilié. Et Dieu seul est élevé. Oh, quel message que nous trouvons ici. Mais voilà les conséquences pour ceux qui ne marchent pas dans la lumière. C'est écrit, car il y a un jour pour l'Éternel des armées, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé, contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés, et contre tous les chênes de Bazan, contre toutes les autres montagnes, et contre toutes les collines élevées, contre toutes les autres tours, et contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis, et contre tout ce qui plaît à la vue. Voilà ce que l'homme poursuit, les choses qui plaisent à la vue. L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Une fois encore, dans le sens historique, tout cela s'est passé lorsque Dieu a suscité l'armée babylonienne pour venir maintenant raser entièrement le temple et la ville qu'il avait établie. Mais maintenant, Dieu à déterminer complètement, les détruire pour que les gens sachent que Dieu seul est Dieu. Les gens aujourd'hui prennent Dieu à la légère. Ils parlent de Dieu comme s'il est un ami qu'on peut appeler à côté à n'importe quel moment, il est là pour nous servir. Non, Dieu est un Dieu saint et juste et qui doit punir le péché. Si vous voulez savoir jusqu'à quel point Dieu punit le péché, il ne suffit même pas de regarder comment il a puni le péché du peuple d'Israël dans la destruction de Jérusalem, mais il faut aller jusqu'à la croix pour voir ce que Dieu a fait de son Fils. Si vous voulez, une véritable vue de la colère de Dieu, il faut voir comment il a mis son Fils sur la croix et a versé sa colère sur son Fils qui était sans péché. Mais il l'a fait afin d'être le sacrifice, le propitiatoire pour satisfaire à la justice de Dieu, afin que Dieu soit juste pour déclarer juste son peuple. Oh, quel salut, quelle œuvre de Dieu! Il a même abaissé son Fils. Et son Fils était obéissant jusqu'à la mort de la croix afin de sauver des êtres pécheurs tels que nous sommes. Donc, sa sainteté n'est pas à prendre à la légère, ni notre propre péché. Et lorsque l'Esprit de Dieu révèle en nous la gloire de Dieu, certainement nos esprits, nos cœurs sont abaissés et nos regards sont tournés vers le seul qui a sauvé les pécheurs de leur péché, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que c'est de marcher à la lumière, c'est d'avoir Christ révélé en nous, cette lumière révélée en nous. Et ayant cette révélation de Christ en nous, nous ne pouvons plus aller ailleurs. Et nous ne voulons plus aller ailleurs, parce que nous voyons que la gloire de Dieu est en lui. Mais pour tout autre, exactement comme Dieu a annoncé ici dans ces versets, concernant la destruction de Jérusalem et même les pays tout autour, quand ça parle des cèdres du Liban, ou bien les chênes de Bazan, c'était des paysages très beaux. Mais lorsque Dieu a suscité l'armée de Nebuchadnezzar venir, il a tout ravagé. Il n'a laissé rien qui poussait encore. Tout a été détruit par son armée, par le feu. Ce dont les gens auparavant avaient pris plaisir, comme certaines parties des pays où nous habitons, nous aimons aller pour le loisir et apprécier le beau paysage, mais Dieu dit tout cela sera complètement détruit. Les tours, les navires, le Tarsis, c'était vraiment beau à voir, mais en fin de compte, lorsque Dieu a ordonné le jugement, tout cela est revenu à rien. Il dit dans le verset 18, toutes les idoles disparaîtront. Pourquoi? Parce que les idolâtres étaient enlevés du pays. Vous savez que le monde est très beau à voir. Et si seulement Dieu enlève des pécheurs de ce monde, ce qui reste, il n'y a pas de péché parce que le péché est dans l'homme. Pourquoi il y a le péché dans le monde? Parce que c'est dans le cœur des hommes qui sont nés de la postérité d'Adam. Donc, enlève le pécheur et les idoles disparaîtront. Donc, c'est pourquoi il dit, toutes les idoles disparaîtront. C'est-à-dire, Dieu a fait en sorte, et c'est ça que Habakkuk a vraiment trouvé un peu difficile à comprendre, parce que comment Dieu peut-il susciter un pays idolâtre pour venir contre le peuple d'Israël et en même temps voir en cela sa justice. Mais nous savons que même pour les Babyloniens, lorsque Dieu a suscité ce royaume, c'était pour un temps. Et puis Dieu a baissé même les Babyloniens à cause de leur idolâtrie. Et un autre royaume, les Perses et les Mèdes, a été suscité pour vaincre Nebuchadnezzar et son royaume. Et ainsi de suite. Dieu est toujours contre l'idolâtrie et il juge selon son temps. Il y a parfois, nous imaginons que non, les choses sont si pires, pourquoi Dieu n'agit pas maintenant? Non, tout selon son plan, tout selon ce qu'il a ordonné. Mais en ce qui concerne les idolâtres, parce que où il y a des idoles, il y a des idolâtres. C'est écrit dans le verset 19, on entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Même en cela, nous voyons que les hommes abandonnés à eux-mêmes ne chercheront jamais le véritable refuge qui est en Jésus-Christ. Où est-ce qu'ils ont fui? Dans les rochers, dans les cavernes, dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Où est-ce que nous avons fui, nous qui sommes les objets de la grâce de Dieu? Ce n'est pas dans les cavernes des rochers, ni dans les profondeurs de la poussière, mais c'est à Christ, comme les cités de refuge qui étaient construites pour que ceux qui étaient coupables pouvaient courir. Et il y avait dans chacune de ces villes, dans le temps de Josué, un souverain sacrificateur qui était là pour intervenir dans le cas de quelqu'un qui est rentré et poursuivi par des gens qui voulaient le faire mourir. Mais sans l'œuvre de Christ, sans cette lumière que Christ donne à son peuple, où est-ce que les gens vont fuir? Toujours à autre refuge. Voilà le point là. Et toujours pour éviter la terreur de l'Éternel. Où est-ce que les gens courent aujourd'hui? C'est dans les œuvres de leurs mains. C'est dans les cavernes des rochers, c'est dans leurs monuments, dans leurs bâtiments qu'ils ont construits au nom de Dieu. Et dans les profondeurs de la poussière, cela représente les œuvres de l'homme qui n'est que de la poussière. Et ils imaginent qu'en poursuivant par leur zèle, la satisfaction avec Dieu qui peuvent éviter la terreur de l'Éternel, l'éclat de sa majesté, mais ce n'est pas un refuge. Dieu les poursuivra là où ils se cachent, n'importe quel faux refuge, que ce soit le faux refuge même de la profession de l'homme, ou de sa propre volonté. On entend parler de Libabé, voilà d'autres qui se cachent derrière leur décision, imaginant éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Mais ce n'est qu'en Christ, parce qu'en Christ, Dieu a voulu faire éclater sa majesté. Et il a placé le péché de son peuple sur Christ. Et Christ est mort, mais il n'est pas resté mort. Il est ressuscité et il est monté au ciel où il est assis. L'œuvre accomplie, c'est fini. Et là, il intercède en faveur de chacun que le Père lui a donné. Mais revenons encore dans ce passage, voyant les conséquences du jugement de Dieu, c'est écrit en ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or qui s'étaient faites pour les adorer aux rats et aux chauves-souris. Et peut-être quand tout allait bien, ils avaient ces idoles d'or et d'argent, mais lorsque Dieu a fait éclater sa fureur, quelle horreur, ils ont reconnu que ce n'était que des objets faits de leurs mains et qui ne pouvaient pas servir de les sauver en ce jour. Et jeter ça même aux rats et aux chauves-souris. C'était tout ce qui restait après que Dieu a fini de balayer le pays. C'était laisser aux rats et aux chauves-souris, c'est-à-dire la poubelle. Et ces rats et ces chauves-souris vivaient mieux que des hommes qui étaient jusque-là en train d'habiter le pays. Ils enterront, dans le verset 21, dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour effrayer la terre. Et ça va être comme ça aussi au jour du jugement final, lorsque Dieu verse sa colère sur cette terre à la fin des temps. Et ceux qui se sont confiés aux objets de leurs mains, ou bien à leurs propres œuvres, à leur profession de foi, beaucoup de gens religieux qui seront jetés à l'enfer, qui ne peuvent pas éviter cette colère de Dieu. Peut-être pour le moment, puisque Dieu n'a pas ouvertement manifesté sa colère, ils se cachent dans leur religion et dans leur dénomination et dans leur tradition. Mais le jour viendra où ils seront exposés. Alors, l'appel final, nous voyons ici dans le verset 22, cessez de vous confier en l'homme. Si vous voulez savoir, mais quel est le point clé de tout cela? Malheur à tous ceux qui se confient à l'homme. Si quelqu'un a une profession de foi qui est fondée sur l'homme, c'est un homme condamné. Et si Dieu le laisse dans cet état, il sera éternellement condamné. Donc l'appel ici, comme ça commence dans le verset 5, avec un appel de venir et marcher à la lumière de Christ, qui est la lumière ici, cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Pourquoi est-ce que l'homme va mettre sa confiance dans un homme qui n'a même pas sa propre vie en charge? Aujourd'hui, peut-être qu'il est en vie, demain, Dieu enlève le souffle de ses narines et il est parti. Et voilà la question qu'il faut se poser, car de quelle valeur est-il? Oh, que Dieu nous préserve de ne jamais mettre notre confiance en l'homme, même pas en nous, parce que nous sommes des hommes. Et on ne doit pas imaginer qu'après un certain temps, puisque nous avons confessé Christ, que voilà, nous sommes forts en nous-mêmes. Non. Jour après jour, nous vivons et nous avons notre souffle de Christ et Christ seul. Ça, c'est vrai physiquement, mais c'est aussi vrai spirituellement. Donc, combien nous devons venir à Christ et continuer à venir à Christ. Et quel amour que Dieu a pour les pécheurs comme nous, qu'il daigne nous retirer des masses, des pécheurs qui continuent dans leur aveuglement et leur rébellion, mais qu'il, par sa grâce, nous retire de là pour nous faire attacher à lui. Et oh combien c'est bien de marcher dans cette lumière, ayant des yeux pour voir, et que Christ lui-même reçoive toute la gloire. Marcher dans la lumière de l'Éternel. Que le Seigneur bénisse cette parole. Amen.